L'article 1124 du Code civil nouveau, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, est situé dans une sous-section consacrée au pacte de préférence et à la promesse unilatérale de contrat, sous-section qui se rapporte à la question de la formation du contrat. Le Code civil nouveau consacre des dispositions aux avant-contrats et la spécificité de la promesse unilatérale de contracter, qui a eu les honneurs du législateur, à la différence de la promesse synalagmatique de contracter, que l'on aurait pu trouver dans le Code civil, mais que l'on n'y trouve pas, sans doute à raison de la difficulté de la distinguer d'une vente à terme, eh bien cette promesse unilatérale est dotée d'une définition dans l'alinéa 1er de l'article 1124. Cette définition fait référence à la nature de contrat d'option de la promesse unilatérale. En effet, l'alinéa 1er de l'article 1124 dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie le promettant, c'est un promettant et ce n'est pas ici le simple signataire d'un pacte de préférence, par exemple, le promettant promet et confère, il octroie à un bénéficiaire un droit d'opter pour la conclusion d'un contrat. Ce droit d'option a une nature juridique particulière, même si le législateur n'en parle pas. L'option n'est ni un simple droit personnel, ce n'est pas un simple droit de créance, c'est plus que cela. L'option n'est pas non plus un droit réel. Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente n'a aucun droit réel sur le bien acheté. Il en deviendra peut-être un jour propriétaire. Mais pour l'heure, il n'a pas de droit réel. Ce qu'il a, c'est une option. L'option, c'est un droit discrétionnaire d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Et parce que l'option, c'est le droit de créer, de former le contrat, eh bien, il est exigé logiquement dans l'alinéa 1er de l'article 1124 que les éléments essentiels du contrat soient déterminés. Cette exigence n'est pas formulée pour le pacte de préférence, puisqu'il est purement éventuel et ne porte pas encore consentement du signataire, mais les éléments essentiels du contrat doivent être déterminés en matière de promesse unilatérale, telle la chose et le prix, parce que du point de vue du promettant, l'engagement et le consentement est d'ores et déjà donné. Et on en veut pour preuve le fait que l'alinéa 1er indique, a contrario, que pour la formation de la vente, ne manque que le consentement du bénéficiaire. A contrario, le promettant a déjà consenti à la vente. Et c'est évidemment le noyau dur de la promesse unilatérale. D'où la sanction de celle-ci qui est abordée dans les deux alinéas suivants. Deux hypothèses sont à envisager. La première hypothèse est la plus simple, c'est celle qui suscite généralement le moins de littérature et de discussions passionnées. L'alinéa 3 en fait état. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. Cette sanction, c'est une sanction classique en jurisprudence. Lorsque le promettant viole la promesse unilatérale en vendant non pas au bénéficiaire mais à un tiers et que ce tiers était de mauvaise foi au sens qu'il connaissait l'existence de la promesse unilatérale, eh bien la sanction pourra être la nullité en sus de tout dommage-intérêt éventuel. On remarquera ici qu'il est indiqué que le tiers connaissait l'existence de la promesse, il n'est pas indiqué qu'il connaissait l'intention, par exemple, du bénéficiaire de s'en prévaloir. La définition est un peu différente de celle que l'on rencontre à l'article 1123 à propos du pacte de préférence, qui est défini, lui, par deux éléments, connaissance du pacte et connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ici, il est juste question de la connaissance de l'existence de la promesse. La notion de tiers de mauvaise foi est plus lâche. Il reste que la seule sanction prévue par le législateur, c'est la nullité de la promesse et que n'est pas prévue ici la substitution, par exemple, du bénéficiaire de la promesse dans les droits du tiers de mauvaise foi. Cela peut paraître paradoxal alors que la promesse unilatérale engage davantage, évidemment, le promettant que le signataire du pacte de préférence. On remarquera également ce qui ne figure pas dans le texte. Ne figure pas dans le texte ici une action interrogatoire permettant de purger l'incertitude tenant à l'existence éventuelle d'une option, d'une promesse unilatérale de vente au profit de tel ou tel bénéficiaire. On la rencontre en matière de pacte de préférence, on ne la rencontre pas en matière de promesse unilatérale de contracter. Et pour terminer, il faut s'intéresser à l'alinéa 2, c'est-à-dire la sanction de la promesse unilatérale, celle qui a fait tant couler d'encre, lorsque le promettant se dédie, le promettant qui se rétracte avant la levée d'option. On le sait. Depuis une décision funeste de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 15 décembre 1993, décision reprise à son compte, en dépit de 20 années, ou pratiquement 20 années, de débats doctrinal et de critiques de l'immense majorité de la doctrine, reprise par la chambre commerciale et étendue à la sphère des droits sociaux le 13 septembre 2011. Eh bien, en vertu de cette jurisprudence funeste, consort Cruz, chacun la reconnaîtra, eh bien, le promettant peut rétracter sa promesse, empêcher la formation du contrat, si la rétractation de la promesse intervient antérieurement à la levée de l'option. Alors certes, si la rétractation de la promesse intervient postérieurement à la levée de l'option, c'est trop tard, la Cour de cassation l'avait déjà dit. Mais si la rétractation de la promesse intervient avant la levée de l'option, le promettant ne doit que des dommages-intérêts au bénéficiaire. Cette solution était calamiteuse, puisque cette solution ignorait la nature même d'option conférée au bénéficiaire. C'est le bénéficiaire qui décide du droit de vie et de mort sur le contrat projeté, par exemple la vente. Le promettant a d'ores et déjà irrévocablement conclu, et la Cour de cassation, dans sa jurisprudence consort Cruz, exigeait en réalité que le consentement du promettant se renouvelle chaque jour, jusqu'au jour au moins de la levée de l'option. C'était une exigence tout à fait curieuse de la part de la Cour de cassation, dont on peut se demander si elle ne participait pas d'une théorie de l'efficient breach of contract ou de l'analyse économique du droit, comme si la Cour de cassation avait lui encouragé la faculté pour le promettant de reprendre sa parole. Supposons une vente pour 100, le promettant reprend sa parole, il indemnise à hauteur de 20 le bénéficiaire avec lequel il n'a pas pu contracter puisqu'il s'est rétracté, pour pouvoir par exemple revendre à un tiers à 130. Et c'est vrai que l'analyse économique droit nous enseigne, notamment aux États-Unis, que ce peut être une opération optimale parce qu'elle permet une allocation optimale des richesses, puisque le promettant qui s'est dit eh bien, va vendre 130 ce qu'il s'était engagé à vendre 100, va indemniser de 20 le bénéficiaire qui aura lui-même un budget supérieur de 20 pour acheter un autre bien peut-être plus cher, et on peut imaginer que c'était une des explications de cette jurisprudence funeste. Cette jurisprudence funeste, le législateur français n'en veut pas. Et dans le Code civil nouveau, il a brisé de la façon la plus solennelle cette jurisprudence de la Cour de cassation, montrant toute l'importance qu'il attache au respect de la parole donnée. Pour reprendre une formule de Denis Mazot, ce qui est dit est dit, ce qui est dit est dû. C'est vrai en matière de promesse unilatérale plus qu'ailleurs. C'est vrai parce que l'option a été conférée au bénéficiaire. Le promettant a irrévocablement contracté et consenti à la vente, de sorte que l'alinéa 2 énonce aujourd'hui et désormais à juste titre que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche plus la formation du contrat promis. Et je crois que c'est une excellente chose.